ça pour qu'il soit fier de moi. Qu'il soit fier de moi.
De la paix. Il est 18h. Le bulletin de 18h. Linda Christelle Ballier.
Heureuse de vous retrouver pour ce bulletin. À la une de cette édition, la question de l'immigration clandestine vers l'Europe était l'un des sujets au cœur de la rencontre hier mardi entre le vice-président de la République Temoko Meliekone et la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni. C'était à la faveur du premier sommet Italie-Afrique à Rome. S'agissant du paiement des arriérés des fournisseurs de l'État, le gouvernement vient de donner instruction aux directions des impôts et du trésor pour le règlement de leurs dus. Vous entendrez le président du syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, Faustin Gré, à ce sujet. Et puis dans l'actualité internationale, les rebelles ADF ont tué au moins 12 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo hier mardi, selon des responsables de la société civile. Bonsoir et bienvenue à tous. Au lendemain des travaux du premier sommet Italie-Afrique à Rome, le 29 janvier, le premier ministre de Côte d'Ivoire, Temoko Meliekone, s'est entretenu hier mardi avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Junior Cardin revient sur le contenu de ces échanges dans ce papier qu'il nous propose.
Les discussions avec Giorgia Meloni ont porté sur la question de l'immigration illégale des jeunes Africains vers l'Europe et le renforcement des liens de coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire dans le cadre du plan Mattei, le nouveau plan d'investissement et de partenariat stratégique proposé par l'Italie à l'Afrique et qui était au centre des travaux du premier sommet Italie-Afrique le lundi 29 janvier 2024 dans la capitale italienne. En ce qui concerne l'immigration clandestine, où la Côte d'Ivoire est souvent indexée comme étant le pays d'origine de la majorité des migrants illégaux vers l'Europe, le vice-président de la République, Temoko Meliekone, a insisté une fois de plus sur la nécessité de lever l'équivoque et rétablir la vérité sur l'identité de ces derniers. Il a révélé que plus de 80% des jeunes clandestins se déclarant ivoiriens ne le sont pas en réalité. Toutefois, le vice-président de la République a rassuré la présidente du Conseil des ministres italien sur l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter contre ce fléau, notamment par le renforcement des contrôles aux frontières ivoiriennes. Quant au second volet de la rencontre, les échanges avec le président directeur général de la société Eni, ils ont tourné autour du développement du champ pétrolier Baleine découvert au large des côtes ivoiriennes et entré en production depuis août 2023. D'ici à fin 2024, la deuxième phase d'exploitation passera de 20 000 à 50 000 barils par jour et de 150 000 à 200 000 barils par jour à l'horizon 2027, suivi d'une hausse de la production du gaz naturel devant permettre de booster la production nationale d'électricité, a rassuré Claudio Descalzi.
Merci à vous, Junior Cardin. Et parlons de gestion de l'État. Nommé depuis le 16 octobre 2023, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a passé le cap des 100 jours en tant que chef du gouvernement. Alors que retenir de ses principales actions? Eh bien, pour le savoir, suivons ici l'analyse de Jean-Claude Comy.
Nommé par le chef de l'État Alassane Ouattara le 16 octobre 2023, l'ancien ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan s'est mis immédiatement à la tâche, et cela en se basant sur les priorités de sa feuille de route comme chef du gouvernement, à savoir la gestion de l'économie, la sécurité nationale et d'autres questions cruciales, notamment la réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire, un événement dont la réussite tient à cœur au président de la République qui, lors du premier conseil des ministres du gouvernement Mambé, avait rappelé que l'ancien ministre-gouverneur qui avait été ministre chargé des Jeux de la Francophonie avait permis en très peu de temps à la Côte d'Ivoire d'organiser avec un grand succès la 8e édition de ces Jeux. Afin donc de relever cet autre défi de l'organisation de la plus grande compétition africaine de football, Beugré Mambé, dans sa stratégie, a déterminé deux axes de travail qui sont de suivre en tant que ministre des Sports l'organisation pratique de la CAN en vérifiant dans les détails les niveaux d'avancement des infrastructures enjeux liés à cette compétition, mais aussi faire accélérer les chantiers qui permettront une meilleure mobilité dans les 5 villes abritant les matchs. Il est aussi à souligner que ces 100 jours de Robert Begré-Mambé interviennent en pleine Coupe d'Afrique des Nations, une messe du sport que de nombreux supporters venus de plusieurs pays veulent suivre, ce qui a causé les premiers moments des problèmes de billetterie, problème que le chef du gouvernement ivoirien avait promis de concert avec la Confédération africaine de football de régler en 48 heures. Et depuis, les choses sont visiblement rentrées dans l'ordre, avec de plus en plus des stades remplis, et cela au grand bonheur des organisateurs qui laissent entendre que cette CAN en Côte d'Ivoire est en passe de devenir l'une des plus belles fêtes de football organisées sur le continent.
Merci à vous Jean-Claude Comé, et parlons de sport de Cannes, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire. Qui parle de sport parle d'amour de la patrie, et donc ces éléments sont fortement liés en général, et donc un fort lien que le sociologue spécialiste ivoirien Ghislain Koulibaly-Pelvien explique par le souci d'exprimer et agir en accord avec ce que l'on est, affirmant ainsi son appartenance à la nation, tout en révélant aussi l'importance d'éviter de tomber dans les excès. Il est interrogé par Aoussi Potin.
Il faudrait entendre par l'amour de la patrie cette bienveillance qui voudrait qu'on se sente appartenir à un peuple. Et surtout l'amour de la patrie, ça se donne en sens unique, car c'est exprimer ce que nous sommes et c'est surtout agir en accord avec ce que nous sommes. Et donc, lorsqu'il s'agit de sport qui rassemble des ethnies, des religions, des obédiences politiques diversifiées autour du sport, on revendique notre attachement à une nation. Et ça, c'est un sentiment fort parce qu'on exprime l'amour pour sa patrie.
Comment concilier amour pour la patrie et le sport pour qu'on reste dans l'esprit du sport?
Le sport est un outil utilisé pour amener la paix. C'est un vecteur d'unité, c'est un vecteur de cohésion sociale. Mais attention, le diable aussi se cache dans le sport. Parce que le sport peut être facteur de violence. On peut produire des cas de violence. Ça peut être des cas de harcèlement, des cas de violence psychologique en dehors des pelouses. Mais ce qu'il faut faire, c'est de comprendre que ce n'est que simplement du sport. Il peut avoir un perdant, il peut avoir un gagnant. Le sport, c'est le fair play. Il ne faudrait pas que l'enjeu vienne tuer le jeu.
C'était à l'instant le sociologue ivoirien spécialiste genre, Ghislain Koulibaly-Pelvien. Parlons économie. À la suite de la demande d'annulation de son sit-in prévu le 10 janvier dernier, le gouvernement a rencontré hier mardi le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire. À l'issue de cette rencontre, les autorités ivoiriennes ont donné instruction pour le paiement des arriérés des fournisseurs, selon Faustin Gré, qui espère que cela se fera dans les plus brefs délais. Nous écoutons le président du syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, Sina Fissi.
Et ce qui est ressorti de cette rencontre, le gouvernement est décidé à prendre en compte les préoccupations. Ils doivent faire monter son nez à la gestion des impôts, gestion des ordres, pour que ces deux structures aient des chaînes de travail avec les fournisseurs d'accord par le cadre du Sinafis. Ensuite, il y a des cas de factures qui ont été remis à hauteur de 36 milliards de francs. Et il faut que nous voulons que ça soit pris, ces factures soient prises à court terme, avant même la finale de la Coupe d'Afrique de 2024. Le représentant du gouvernement a donné des instructions à la direction générale du Trésor pour le paiement des factures à court terme et la gestion des impôts. Donc, pour nous, en principe, le lundi ou mardi, il doit nous dire ce qui a été fait au niveau du Trésor, les paiements qui sont en échange des paiements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai qu'on leur donne, mais nous aussi, nous ne pouvons pas attendre indéfiniment. Puisque ce que nous avons soumis, c'est à court terme. Et à long terme, nous avons attendu. Beaucoup sont morts, il y a des familles qui sont disloquées, il y a des enfants qui sont désolés, qui n'ont plus à l'école, il y a des malades, il y a eu des décès. Donc nous ne pouvons pas, Carmen, on ne peut pas attendre indéfiniment le gouvernement. Nous pensons que le gouvernement a assez mature, c'est ce que nous disons, a assez mature pour respecter ses engagements vis-à-vis de Fournisseurs Côte d'Ivoire dans un délai bref que nous souhaitons.
Vous venez d'entendre le président du syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, Sina Fissi, Faustin Gré. Et puis grâce au soutien financier de ses partenaires, le conseil municipal de Boaké a investi en 3 mois un peu plus d'1 milliard de nos francs en vue d'améliorer les conditions de vie des administrés. L'information a été portée aux populations par le maire Amadou Koné à l'occasion du forum économique et touristique Invest in Boaké qui s'est tenu du 25 au 26 janvier dernier. On en sait un peu plus avec notre correspondant sur place, Joseph Assali.
Reprofilage des rues en terre, travaux d'assainissement et de salubrité rendant la cité de plus en plus attractive, ravalement des façades des murs ornés désormais de figurines. Tel est le nouveau visage que présente depuis quelque temps la ville de Boaké. Toutes ces actions ont nécessité un important investissement, selon le maire de Boaké, Amadou Koné.
Nous avons entamé la transformation qualitative de Boaké. L'UEMOA a fait un don de plus de 600 millions de francs CFA à la commune de Boaké. Pour commencer le travail que vous voyez, je voudrais, en plus de l'UEMOA, remercier tous nos amis et tous nos partenaires qui se sont mobilisés, qui nous ont offert des équipements de salubrité, qui nous ont offert des équipements de sécurité que nous avons mis à la disposition de la police nationale et de la police municipale. Ce sont en 3 mois plus d'un milliard de francs CFA qui ont été investis sans prendre un sou dans les caisses de la mairie.
La population salue toutes les initiatives de développement entreprises par les autorités municipales.
La vie est propre, tout est propre.
Le maire Madou Koné a fait du bon boulot. Il faut que la population évite de jeter les ordures, il faut qu'ils arrêtent de ruiner dans les rues.
Outre des poubelles, des toilettes publiques sont en cours d'installation dans la ville de Boaké où le taux d'insécurité a sensiblement diminué selon des autorités policières. Dans cette dynamique, un commissariat de police sortira bientôt des terres au quartier Dar es Salaam grâce au conseil municipal. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Dans l'actualité sur le continent, des rebelles ADF ont tué au moins 12 personnes, des villageois, lors d'une série d'attaques dans l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré un responsable local et un dirigeant de la société civile, alors que le président Tshisekedi a exclu tout dialogue avec le Rwanda, voisin au sujet d'un conflit connexe. Les meurtres dans la province du Nord Kivu ont eu lieu mardi donc et ont été perpétrés par les forces démocratiques alliées, des militants armés qui seraient liés au groupe État islamique. Les ADF ont donc attaqué 3 villages dans le territoire de Beni, selon Kinos Katuo, le président de l'organisation locale de la société civile Mamové. Et puis l'actualité, c'est aussi le retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CDAO. Quelles peuvent être donc les conséquences économiques pour les pays de l'Alliance des États du Sahel et pour l'organisation sous-régionale CDAO? Docteur Germain Cramo, chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, interrogé par Jean-Claude Comé, y répond.
Effectivement, nous avons tous appris par voie de presse le retrait de ces 3 pays de la CEDEAO et ce qui était plus ou moins prévisible au regard des tensions qui existaient entre les 2 parties, mais on avait toujours l'espoir que les choses s'arrangeraient, vu que de plus en plus on fait la promotion des regroupements régionaux pour pouvoir faciliter le commerce entre les pays de l'Afrique de l'Ouest.
Pour vous, en tant qu'économiste, quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision?
Le retrait de ces 3 pays aura certainement des conséquences négatives sur les 2 camps, aussi bien les pays qui se retirent que les autres pays de la CEDEAO, parce qu'il y a des liens qui existent déjà entre ces pays, qui permettent à ces pays d'échanger plus facilement. Donc il y a une suppression des droits de douane entre ces pays membres de la CEDEAO, mais avec leur retrait, ils deviennent des pays hors CEDEAO, donc il va falloir rétablir ces barrières tarifaires, donc qui vont avoir aussi un impact sur le coût de la vie des 2 côtés. Mmh. À cette illustration, nous voyons que le Mali est le principal pays importateur intra-CEDEAO, avec 28% des importations intra-CEDEAO, suivi par la Côte d'Ivoire, 25%. Mmh. Donc nous voyons que là, ce sont des pays qui font du commerce avec les autres pays membres de l'UEMOA, donc leur retrait va impacter les 2 camps.
Docteur Germain Cramo, chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, le CIRES qui est le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Et c'est la fin de cette édition, le rappel des titres. L'immigration clandestine vers l'Europe était l'un des sujets au cœur de la rencontre hier mardi entre le vice-président de la République Timoko Meliè-Koné et la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni. C'était à la faveur du premier sommet Italie-Afrique à Rome. Et s'agissant du paiement des arriérés des fournisseurs de l'État, le gouvernement vient de donner instruction aux directions des impôts et du trésor pour le règlement de leurs dus, selon le président du syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, Faustin Cré. Et puis dans l'actualité internationale, les rebelles ADF ont tué au moins 12 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo hier mardi, selon des responsables de la société civile. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à l'écoute de Radio de la Paix.
Radio de la Paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
Nous prenons le prêt à vitre. Nous prenons le maxi des Guadeloupe.